commence là, in utero. Nous venons tous de là. C'est là que nous sommes nés. Nous avons tous été une cellule, puis deux, quatre, huit, puis des milliards et des milliards de cellules. Nous avons tous été des embryons, puis des fœtus. Nous avons connu l'origine de la vie, puis nous sommes venus au monde et nous avons enfoui le souvenir de ces 9 mois passés in utero. Nous sommes toujours avec Claudine Cohen, paléontologue, philosophe et historienne des sciences. Érudite, sensible, Claudine Cohen a été une des premières chercheuses à porter un autre regard sur les vestiges de la préhistoire et à donner une place aux femmes préhistoriques, très loin des images stéréotypées de la femme tirée par les cheveux, à l'horizon borné, terrée au fond de sa grotte et vouée à la reproduction. Claudine Cohen a sorti les femmes préhistoriques de l'invisibilité. Elle a déconstruit l'image que j'avais des femmes préhistoriques, de leur corps et de leur sexualité. Elle parle de ces femmes comme vous ne l'avez encore jamais entendue. Je m'appelle Zoé Varier et je vous invite à poursuivre notre voyage en Russie, dans la vallée du Don, sur le site de Kastienki, il y a 25 000 ans. C'est là que l'on a découvert en 1987 une statuette de dos et de face qui représente une femme sur le point d'accoucher. C'est la Vénus préférée de Claudine Cohen.
Elle est sublime et celle-là, je l'ai tenue dans mes mains. Vraiment, c'est un objet très très émouvant. C'est un corps de femme sans tête. Sans pieds, sans bras, il y a juste les mains, voilà, qui est fait en calcaire, mais un calcaire extrêmement lisse, qui a été visiblement très bien travaillé. Et on voit donc un ventre rond, avec un nombril qui est proéminent, comme je suis une femme enceinte qui va accoucher bientôt. Alors, il y a donc ces deux mains qui sont posées sur le ventre, et il y a une corde qui est passée autour de la taille et autour des poignets. C'est la même corde. Alors, qu'est-ce que c'est cette corde? Il y a une interprétation qui m'a tout à fait séduite et qui, paraît-il, renvoie à des pratiques qu'on trouve en Russie dans les campagnes ou qu'on trouvait il y a peu dans les campagnes en Russie. C'est une pratique de l'accouchement avec une corde passée autour du ventre pour pousser, pour appuyer, pour appuyer
et faire au moment, sortir le bébé.
Voilà, au moment et pousser aussi, enfin une espèce d'élan. Voilà. Donc ça peut être ça. En tout cas, c'est une image très 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 touchante, quoi.
En contemplant avec Claudine Cohen ces Vénus en train ou sur le point d'accoucher, je me demande s'il existe des représentations du fœtus dans l'art du paléolithique.
Alors, l'art paléolithique occidental n'est pas tellement un art du dedans. On montre l'extérieur. Au contraire, on trouve en Australie, dans la peinture pariétale en Australie, des représentations du squelette, de l'intérieur du corps. Mais bon, ça je connais moins.
D'accord.
Et il y a peut-être des représentations d'enfants à l'intérieur d'un corps. C'est possible.
C'est possible.
Dans l'art paléolithique, non. Et puis l'enfant n'est pas représenté. Et on ne voit pas de mère à l'enfant.
Non.
Alors que dans l'art néolithique, il y a des mères à l'enfant. Il y a des mères qui portent des enfants. Et même qui allaitent, par exemple. Mais dans l'art paléolithique, non. On n'a rien de ça.
Rien.
Il y a une question que je me posais, c'est quand est-ce qu'on sait quand est-ce que... les femmes et les hommes de la préhistoire, alors je sais que c'est fou de parler comme ça, parce que c'est... Quand est-ce qu'ils ont compris le lien de causalité, enfin la relation entre l'acte sexuel et la procréation? Oui, est-ce qu'on sait ça?
C'est la question qu'on vous pose toujours à la fin des conférences. Toujours.
Je suis désolée,
Non, mais c'est une belle question, c'est une très bonne question.
Parce que quand même...
Alors, écoutez, alors moi, comment je réponds à cette question-là? D'abord, je dis que pour comprendre le lien entre l'acte sexuel et la procréation... Ben, il a fallu des millénaires et des millénaires et que la science n'a pu donner une image exacte de cette chose-là qu'au XIXe siècle.
Absolument.
Voilà. Donc, au XVIe, XVIIe siècle, on pensait, ou bien on pensait que tous les êtres vivants étaient déjà dans le sein d'Ève et qu'ils se développaient comme ça spontanément, par la grâce de Dieu, ou bien on pensait que la femme n'était rien du tout, que c'était l'homme qui faisait tout, ou bien on pensait qu'il y avait un troisième qu'il fallait, qu'il y ait Dieu. Il y a beaucoup de sociétés où il faut qu'il y ait un être extérieur qui intervienne pour qu'il y ait procréation. Donc tous les cas de figure existent, et existaient il y a très peu de temps, même chez nous. Et je pense qu'il a dû y avoir de tout temps, comme il y a eu des structures de parenté très diverses, des mythes très divers qui articulent tous les éléments d'une société, eh bien, je pense que les relations à la procréation et à la sexualité ont dû être pensées de façon inventive, différente dans la plupart des sociétés humaines. Mais je pense qu'il y a un savoir empirique. On sait quand une jeune fille est nubile. On sait que s'il y a un acte sexuel, elle va devenir enceinte. On sait le nombre de mois de grossesse. Enfin, il y a un savoir des femmes, de leur corps, de leur pratique sexuelle. Il y a une observation aussi des animaux. Donc, il y a une observation aussi d'une femme par l'autre. Je veux dire, c'est pas seulement se regarder soi-même. C'est aussi au sein d'un groupe qu'on peut comprendre et au sein des échanges entre femmes, bien sûr, mais entre femmes et hommes et l'observation. Et c'est d'ailleurs probablement ce qui motive, dans certaines sociétés traditionnelles, la mise à l'écart, pendant certaines périodes, des femmes, peut-être parce qu'on sait qu'elles sont particulièrement fertiles et qu'il vaut mieux éviter une grossesse à ce moment-là, ou au contraire, enfin, etc. Donc, je pense que c'est un savoir certainement empirique, qui n'est pas entièrement rationalisé, mais encore une fois, il ne l'a pas été avant quelques décennies, depuis le XIXe siècle.
C'est justement au XIXe siècle que l'on a découvert en Dordogne la première Vénus dite la Vénus impudique, qui date de 14 000 avant Jésus-Christ. Mais pourquoi ces petites statuettes ont-elles été appelées des Vénus ?
Alors, pourquoi on les appelait les Vénus ? Alors, la première qui a été trouvée, c'est une figurine qui se trouve d'ailleurs aujourd'hui au Musée de l'Homme, qui est toute petite, qui fait même pas une dizaine de centimètres, toute gracile, en ivoire, et toute plate. Et elle est plus tardive, c'est une figurine du Magdalénien, c'est-à-dire la fin du Paléolithique supérieur. Et la plupart des figurines ou des images féminines de la fin du Paléolithique supérieur sont sveltes. Svelte et assez lascive comme ça. Alors celle-ci, c'est visiblement une jeune fille, toute jeune fille, elle n'a pas de sein pratiquement, et elle a un sexe au contraire très bien dessiné, avec une vulve très marquée, etc. Alors quand on l'a trouvée, ça c'était en 1864, le découvreur était le marquis de Vibray, c'était un archéologue amateur, comme la plupart des gens étaient amateurs, il n'y avait pas encore une profession sur ces disciplines, elle venait d'être inventée en fait, la préhistoire venait d'être inventée. Mais il y avait des gens qui fouillaient, enfin qui se passionnaient pour tout ça. Et le marquis de Vibray, lui, était un archéologue plutôt de la Grèce et de la Rome antique, enfin de l'Antiquité classique. Et vous savez, dans l'Antiquité classique, il y avait ce personnage, la Vénus, grec, qui était, alors il y avait la Vénus Callipyge aux belles cuisses, il y avait la Vénus mère, enfin il y avait toutes sortes d'incarnations de Vénus, et les Romains étaient choqués par le fait que certaines Vénus ne cachaient pas leur sexe et leur sein. Et ils disaient qu'elles étaient impudiques. Alors il y a la Vénus pudica, celle qui cache, et puis il y a celle qui est impudique. Et donc cette Vénus-là, qui a été la première trouvée, cet objet qui était le premier trouvé, en figure de femme, a été nommé Vénus impudique, en rapport avec les dénominations des archéologues de l'Antiquité.
Et en fait, le regard qu'on a d'abord porté sur ces objets, sur ces Vénus, a été un regard écœuré. Enfin, on a trouvé ça obscène, porno.
Alors,
c'est le premier regard.
Oui, alors évidemment, ce mot impudique, il en dit beaucoup. Elle montrait son sexe. On est quand même dans les années 1860, où les femmes étaient quand même très corsetées. Enfin, c'est l'époque victorienne. Et en France aussi, c'est la grande bourgeoisie, où on ne montrait pas plus que le col, ce qui dépassait du col. Et du coup, alors ça, c'était la première. Mais après, rapidement, on va trouver des images plus, encore plus impressionnantes, hein, avec ces volumes extraordinaires, avec ces seins énormes, avec ces fesses énormes, ces ventres. Vraiment le schéma qu'on retrouve chez toutes ce qu'on appelait les Vénus paléolithiques, c'est-à-dire un corps énorme, hypertrophié dans ses caractères sexuels. Hein. Et puis les membres, les pieds, la tête réduits à presque rien. Voilà. Donc c'est un schème. Ouais. C'est un schème stylisé en quelque sorte, qui certainement a une signification symbolique, hein, qui n'est pas une image réaliste. Les femmes n'étaient pas comme ça. Hein. En tout cas, il y a une répétition de ce schème dans l'art paléolithique, que ce soit l'art peint, l'art gravé, l'art sculpté. Hein.
Ça dit l'importance ?
Alors, ça dit quelque chose certainement de la place des femmes dans ces sociétés, et peut-être au-delà de ce qu'elles représentaient ou des symboles ouais. qu'on pouvait attacher à cette image.
En feuilletant le livre de Claudine Cohen sur la femme des origines, nous nous sommes arrêtés devant la photographie de la Vénus de Locelle, dite la Dame à la corne. C'est une sculpture en bas-relief, qui a été découverte en 1911 en Haute-Garonne et qui date d'environ 20 à 25 000 ans avant Jésus-Christ. Cette statuette a été lue comme un symbole de fécondité.
Par exemple, ici, vous avez la Vénus de Locelle. Elle est très intéressante. Non seulement, bon, elle est en pied, elle a presque un visage. Ouais. C'est très rare, hein, qu'elle ait des visages. Elle a un visage qui est tourné un petit peu vers la droite. Et dans la main droite, elle porte une corne. Et cette corne, alors on a fait toutes sortes de commentaires sur cette corne, on peut y réfléchir beaucoup. Est-ce que c'est une corne d'abondance? Est-ce que c'est un nappe pour boire du vin? Est-ce que c'est un instrument de musique parce qu'elle a des stries? Vous savez, il y a ces jouets là qui font le bruit du crapaud là, quand vous les grattez avec un morceau de bois. Alors ça pourrait être ça. Et puis, alors on a dit aussi, et ça me paraît intéressant, qu'il y en a 13 des incisions. Et que ça pourrait être les mois lunaires, ouais. c'est-à-dire un calendrier lunaire qui peut servir à compter les mois de la grossesse. Hein, voilà. Donc, il y a toutes sortes d'interprétations possibles. Alors, il y a une image aussi parmi les Vénus de Locelle. En fait, malheureusement, elle a été détachée de l'abri où elle se situait, où il y avait 5 figures. Une peut-être masculine, encore, on ne voit pas bien, donc on n'est pas sûr, mais 4 figures féminines, dont une qu'on a appelée la carte à jouer, qui a 2 têtes. Il y a une tête, elle est assez stylisée, il y a le corps comme ça, et puis il y a une autre tête. Alors, certaines interprétations disent que ça figure un accouchement, parce qu'il y a une tête qui sort en bas. Alors, peut-être. Moi, je pense que cet ensemble-là représente peut-être les différents âges de la femme. Différents moments de la vie d'une femme.
Peut-être.
Voilà. Il y a la femme âgée, la femme jeune, dans la fleur de l'âge, avec sa corne, et celle qui accouche. Enfin, peut-être que c'est une. Pourquoi pas un lieu d'initiation pour les jeunes filles, pour leur montrer comment se développera leur vie de femme.
Certaines figurines représentent des femmes avec des gros ventres, des seins lourds, tombants. On peut penser que ce sont des femmes d'un certain âge, ménopausées. Claudine Cohen a développé une idée intéressante à propos de ces statuettes. Elle parle de révolution des grands-mères.
Vous savez, ces statuettes, vous parlez de la Vénus de Willendorf, hein, elles ont été lues alors, au début du XXe siècle, quand elles étaient découvertes. Hein, Willendorf, c'était 1908. Mmh. Donc, quand elle a été présentée à l'abbé Breuil, toujours l'abbé Breuil, il a dit « c'est d'un réalisme poussé jusqu'à l'horrible ». C'était un réalisme sexuel, quoi, pour lui. C'était vraiment l'obscénité. Hein. Pour beaucoup, c'était une incarnation de la sexualité. Il y en a qui ont dit que ces Vénus étaient des sex-symboles. Hein. Ouais. Moi, personnellement, je ne vois pas tellement un sex-symbole dans la Vénus de Willendorf. Et j'aime bien l'idée, et les gens s'intéressent à ça quand j'en parle, de la révolution des grands-mères.
Ah bah c'est passionnant, c'est une très bonne idée.
La révolution des grands-mères. Parce que, si vous voulez, la grand-mère, est un phénomène relativement spécifique à l'humain.
Ben, j'ai découvert ça en vous lisant.
Voilà. Donc,
des femmes qui vivent au-delà de la
de la période de fécondité, donc au-delà de la ménopause. Et bon, ce qui est rare chez les primates, pratiquement, il y a une espèce de primate qui a à peu près ce genre de comportement. Et parmi les mammifères, c'est très, très, très rare. Et donc, l'humanité a ce privilège, en fait, pour les femmes, de pouvoir survivre à leur période de fécondité, continuer à vivre bien, d'ailleurs, enfin, en étant relativement en bonne forme, et jusqu'à un âge plus avancé, même souvent plus avancé que les hommes. Alors, quelle est la fonction de cette sélection, de ce trait ? Un des modèles qui a été fait, c'est que, effectivement, ces femmes ménopausées avaient pour rôle de s'occuper des enfants, d'être les grands-mères, en quelque sorte. Souvent, d'ailleurs, la mère de la femme qui vivait avec le couple, hein, et l'enfant pouvait être pris en charge par la grand-mère pour que la mère ait un peu plus de temps pour se vaquer à ses propres occupations. Et en même temps, les grands-mères sont les personnes qui transmettent, hein, parce qu'elles ont la connaissance des traditions, des savoirs, des techniques, etc. Et donc, elles sont à même de transmettre à l'enfant, au cours de cette longue éducation qui est propre à l'humain, toutes les valeurs du groupe, etc. Et donc, pourquoi ces femmes, certaines de ces femmes donc opulentes et visiblement qui ont une longue vie derrière elles, hein, qui ont eu beaucoup d'enfants, etc., pourquoi n'incarnerait-elles pas justement ce personnage de la grand-mère, vénérée, vénérable et utile au groupe ?
Cette idée du rôle des grand-mères préhistoriques m'a séduite. En regardant toutes ces figurines de femmes opulentes et plantureuses, je me demande s'il existait un culte de la maternité et de la fertilité au Paléolithique.
Alors, culte, ça c'est un vieux mot, hein, qui a été beaucoup mis en avant par les interprètes des cultures et de l'art paléolithique de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle. C'était tous des curés, hein. tous des abbés, des pères jésuites. Voilà. Et il y a eu un moment où vraiment la préhistoire a été colonisée par l'Église. Hein. Donc la notion de culte était une notion vraiment utilisée pour tout. Hein. On trouvait des dents d'ours, il y a un culte de l'ours, on trouvait des machins. Donc, si vous voulez, il y avait un crâne retourné dans un endroit, il y avait un culte des crânes. Enfin, donc, je pense que ça dit tout et rien, cette notion de culte. Hein. Alors, maintenant, qui est un intérêt pour la grossesse, c'est certain. Comment ne pas s'intéresser à la grossesse ? C'est quand même un moment tout à fait intéressant du développement du corps d'une femme, hein, et visible en plus. Et puis qu'il y a un aboutissement quand même extraordinaire, enfin, la naissance d'un nouvel être. Comment ne pas être fasciné par cette chose ? Alors maintenant, comment s'exprime cette fascination et quelles étaient les implications de pensée par rapport à cette fascination ? Ça, on peut discuter. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a dit que il y avait un culte de la fécondité et un appel à la multiplication, hein, des êtres. Donc l'abbé Breuil, par exemple, qui a régné pendant 50 ans ou plus sur l'interprétation de l'art, disait que tout l'art paléolithique était donc orienté vers la magie de la fécondité. Là, on représente des animaux, c'est pour qu'ils se reproduisent. On représente des femmes, c'est pour avoir des enfants. Bon, alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas du tout évident. Alors peut-être la magie de chasse, et encore, on sait que les animaux qui sont représentés sur les parois ne sont pas forcément les animaux chassés, hein, ni les animaux dont on s'alimentait. Maintenant, une magie de la fécondité des femmes, ça aussi, c'est fragile. Justement, parce que c'était peut-être pas la préoccupation première de ces peuples de renouveler de façon rapide et sempiternelle les naissances. Donc, il y avait peut-être autre chose. Il y avait certainement une fascination pour la grossesse, pour l'enfantement. Hein. Il y avait sans doute un désir et une volonté pour les femmes de protéger ce moment délicat de leur vie. Parce qu'il devait y avoir quand même des risques, hein, de mort en couche, ou voilà, au moment de la grossesse et au moment de l'accouchement, qui est toujours un moment périlleux. Mais alors, est-ce que c'était un culte ou est-ce que c'était peut-être l'usage d'amulettes représentant des femmes enceintes qui protégeaient ce moment-là ? Et puis, alors, aujourd'hui, il y a toute une série de lectures de l'art paléolithique, alors, dans son ensemble, et en particulier de l'art des grottes ornées, qui y voit la traduction d'un mythe d'émergence. C'est-à-dire, c'est-à-dire que la grotte elle-même, on a souvent dit que la grotte était comme une matrice, comme un sexe de femme. Mmh. C'est vrai que vous voyez souvent sortir des animaux, enfin c'est très impressionnant. Dans la grotte Chauvet, par exemple, il y a un cheval qui sort comme ça, on a l'impression qu'il est presque engendré par la grotte, par l'anfractuosité de la grotte, il y a une espèce de naissance. Michel Laure-Blanchet, qui est probablement le meilleur spécialiste de l'art paléolithique aujourd'hui, a écrit un livre qui s'appelle « Naissance de la vie ». Et donc, il développe dans ce livre l'idée que l'art des grottes, l'art pariétal, traduit cette naissance, cette émergence. Et que, par exemple, les figures animales sont très souvent dessinées dans un mouvement qui les porte vers la sortie, comme s'il y avait un mouvement de naissance de l'intérieur de la grotte vers l'extérieur.
Donc l'émergence, ça pourrait être ça aussi.
L'émergence, c'est ça. C'est l'émergence de la vie. Comme la naissance d'un enfant. Hein, c'est la vie qui sort du sein de la terre, hein, le sein de la mère. Voilà. Donc ça, c'est une interprétation aujourd'hui qui est très... Je ne dirais pas qu'elle est à la mode, mais de façon très intéressante, plusieurs grands préhistoriens qui convergent dans ce sens. Donc l'idée que la naissance... C'est une naissance de la vie en général, pas seulement de l'enfant qui sort du ventre de la mère, bien sûr, mais il y a une métaphore, en quelque sorte, de l'émergence, un mythe d'émergence, qui est traduit dans cette très grande complexité de l'art paléolithique, parce que ce n'est pas quelque chose de simple, hein, c'est un art d'une grande sophistication.
Avec Claudine Cohen, nous avons compris que l'art du paléolithique est un art d'un raffinement extrême. Les jeux de forme, le symbolisme attestent de l'existence d'une pensée préhistorique. Dans le prochain épisode d'In Utero, nous poursuivrons notre voyage dans le temps, du Moyen-Âge au XIXe siècle. Nous nous interrogerons sur la place du fœtus et de la grossesse dans l'histoire. In Utero est un podcast documenté par Anna Massardier, écrit par Zoé Varier, mixé par Benjamin Orgeret et Basile Beaucaire, et réalisé par Flora Bernard. In Utero est un podcast original de France Inter.